Cours de philosophie de la matière par le père Philippe à Rimont, 13 février 1990, premier cours.
Nous allons continuer d'analyser ce que Aristote nous dit dans le livre 7. Pour ceux qui n'étaient pas là au cours précédent, je résume en quelques mots. Saisir. Le livre 7 et 8 d'Aristote, dans sa physique, donc sa philosophie, des réalités mues. Sa philosophie, on pourrait dire, du corps, de la pierre, du monde physique. Ces chapitres 7 et 8 que les réalités mues sont comme un appel au plan philosophique, au plan de l'intelligence humaine, à une réalité qui est au-dessus, au-delà de notre univers. Et c'est le bin-bon d'Aristote. Mais très intelligent. On ne peut pas rester dans le monde physique. Un monde physique clos est absurde. Ça n'a pas d'intelligibilité. Ça n'a pas de, j'allais presque dire, de consistance philosophique. Oui, c'est ça qui est si impressionnant. Platon, lui, tout de suite, par le point de vue de l'âme, qui est une forme en soi, l'âme spirituelle, ouvrait tout à Dieu, aux réalités immatérielles. L'âme, et comme les néoplatoniciens le diront, c'est l'horizon du monde visible au monde invisible. Donc, c'est l'âme qui appelle Dieu. Parce qu'en soi, elle est divine. Comme diront les néoplatoniciens, il y a quelque chose de divin dans l'âme. Donc, en soi, elle est divine. Aristote n'accepte pas ça. Parce que nous n'avons pas une intuition intellectuelle de notre âme. C'est vrai que c'est pas commun de savoir ce que c'est que l'âme. Nous avons des émotions, nous avons une affectivité, nous avons un sens de l'intériorité. Nous ne savons pas ce que c'est que l'âme. Pour Platon, c'était, j'allais dire, un a priori spirituel. C'est vrai, ça repose sur un a priori. Mon âme est immortelle. Ça reposait sur toutes les traditions religieuses et sans doute les traditions de l'Inde. De plus en plus, on croit que c'est l'ouverture de la Grèce à l'Inde et qui du reste était déjà un peu ouverte à l'Inde, mais là, très explicitement. Donc l'âme est le lieu du passage de tout ce que nous voyons à l'invisible. On passe du visible à l'invisible par l'âme, parce qu'il y a une intuition immédiate de l'âme immortelle, en s'appuyant sur les traditions religieuses. Aristote n'accepte pas cela parce que pour lui, nous n'avons pas cette intuition. Nous avons une connaissance de l'âme qui reste très cachée au fond. Aristote regarde le monde physique en disant que dans le monde physique, il y a quelque chose d'intelligible. Le monde physique dans lequel nous sommes demande premier livre de la physique, c'est un livre critique pour montrer que ce qui est mu possède en soi une certaine intelligibilité. Il analyse ensuite ce qui est mu en découvrant la nature. Qu'est-ce que c'est que la nature? La phusis, la nature. Principe immanent de ce qui est mu. Et au terme de sa physique, livres 7 et 8, nous retrouvons une attitude réflexive, critique, pour montrer que si ce monde physique est intelligible, il l'est grâce à un autre, en lui-même, il n'a pas une intelligibilité parfaite. Parce qu'il n'existe que dans un devenir. Et le devenir comme tel, le mouvement comme tel, n'est pas parfaitement intelligible. Il y a un sujet de tout ce qui est mu, qui est radicalement la matière, et qui est une réalité substantiellement en puissance. Et donc, qui n'est intelligible que d'une manière analogique, par un autre. Je crois que c'est toute son étude de la physique, ça. Alors, le livre 7 et 8, les deux livres 7 et 8, qui ont été des livres extrêmement discutés, que saint Thomas a aimé énormément. Saint Thomas absorbe 7 et 8 pour nous montrer comment l'intelligence humaine est conduite à affirmer l'existence d'un être immobile que les traditions religieuses appellent Dieu. Pour Aristote, les livres 7 et 8 sont, je crois, des livres critiques. C'est-à-dire, ils nous montrent que nous ne pouvons pas demeurer dans ce qui est mu. Ce qui est mu appelle un moteur immobile. Ce qui est mu appelle quelque chose d'autre, antérieur à lui. Qui est sa propre cause et qui, lui, ne peut pas être mu. Donc, est au-delà de la matière. Est un être immobile. Alors, le livre 7 reste dans une perspective de pure physique. On verra que le livre 8 va introduire beaucoup plus le vivant. C'est autre chose. C'est très curieux, du reste. Ces deux livres qui viennent s'ajouter, se compléter. Mais je crois que les livres 7 et 8 doivent se lire dans cette lumière critique. Mais c'est notre hypothèse de recherche, de travail par rapport à Aristote. Lire les livres 7 et 8, non pas du tout comme la tradition les a lus, mais les lire vraiment dans une perspective critique, c'est-à-dire de pure intelligibilité. C'est beaucoup plus grand, du reste. Donc, c'est pas de la métaphysique, c'est pas de la physique, c'est une critique. Et pour bien comprendre cela, c'est ce que nous avons commencé de faire. On analyse progressivement ce livre 7. On ne fera peut-être pas jusqu'au bout, parce que c'est un peu long. Mais au moins, avoir l'orientation. Alors, j'étais parti de cette donnée. Aristote affirme, tout ce qui est mu par un autre. Alors je pose la question, tout ce qui est ému par un autre, qu'est-ce que c'est comme principe? C'est très curieux. Qu'est-ce que c'est comme principe? Est-ce que c'est un axiome critique? C'est-à-dire un principe critique. Dès que je suis en face de ce qui est ému, je dois chercher l'autre. Si je veux comprendre ce qui est ému. Ce qui est ému n'est pas mieux par lui-même. Il est mieux par un autre. Donc, ce qui est ému me conduit à un autre. Du fait même qu'il est ému. Son intelligibilité est limitée. Voyez, alors mettez parallèlement, parce que c'est ça qui est intéressant, l'axiome de non-contradiction, qui est un axiome critique. On attira le premier principe. Pour Aristote, c'est un axiome. Donc, qui dit axiome dit une proposition évidente qui s'impose à notre intelligence. Une proposition évidente qui s'impose à notre intelligence, qui s'impose à notre intelligence d'une façon telle qu'on ne peut pas la rejeter. On serait dans la contradiction. On ne pourrait plus rien dire sur la rejeter. Mais ce n'est pas une cause, c'est un principe. Donc c'est quelque chose de premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Alors, le principe de non-contradiction, l'axiome de non-contradiction, est dans l'ordre de l'être. On ne peut pas affirmer et nier en même temps que ceci est et que ceci n'est pas. C'est un principe premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Si vous niez ça, vous pouvez tout dire. Vous ne pouvez plus rien dire, plus exactement. Tout votre langage n'a plus aucun sens. C'est la logomachie dans laquelle on entre. Alors, il ne faut pas oublier que tout l'effort, comme on l'a souligné, de la philosophie contemporaine est le dépassement du principe de non-contradiction. Ce livre très intéressant qu'il faut avoir lu, ça se titulerait comme un roman. C'est intéressant quand la philosophie se dit comme un roman de Michel Carouge qui montre l'au-delà du principe de non-contradiction. Évidemment, c'est avec la philosophie hegelienne, mais il le montre à travers la littérature, à travers tout. C'est ça qui est intéressant. C'est un livre qui a été édité aux éditions du Cerf. On l'a sûrement ici à la bibliothèque, puisque je l'avais. Et que je l'ai plus, donc il est à la bibliothèque. C'est un livre qui a été écrit il y a 20 ans et qui reste actuel. Ça n'a pas changé. Ça continue. C'est le marécage de la pensée moderne. Il n'y a plus de piste. On ne sait plus où on va. On peut d'une certaine manière tout dire. Vous voyez, c'est la sincérité du moment actuel, mais demain ce sera autre chose. Et ce que j'ai dit aujourd'hui ne vaut plus pour demain. Alors, je crois que c'est très intéressant de voir qu'au niveau de l'être, on a l'axiome de non-contradiction. Au niveau du devenir, on a ce second axiome. Tout ce qui est mieux est mieux par un autre. Et je crois que c'est un axiome, un principe premier dans l'ordre du devenir. Et c'est de l'ordre de l'intelligibilité. Alors évidemment, tout ce qui est ému, il est réel ce qui est ému. Mais ému par un autre, c'est son intelligibilité qui ne peut se comprendre que par un autre. Alors, il y a le fondement réel, c'est évident. Le fondement réel, c'est la nature. C'est la nature déterminée. Troisième axiome, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de l'autre. Alors c'est évident que c'est tout à fait critique. Là, nous étions arrivés là. Mais ce qui m'intéresse, moi, ici, dans cette étude que nous faisons, c'est de voir si vraiment nous sommes dans le point de vue critique. Ça qui m'intéresse. Voyez. Parce que alors, si vraiment livres 7 et 8 sont dans un point de vue critique, toutes les critiques qu'on a fait à Aristote tombent. Parce que jamais on s'est placé de ce point de vue-là. Et regardez le père Dubarle quand il montre comment c'est inacceptable pour la pensée moderne. C'est parce qu'il se place à un point de vue physique, à un point de vue de philosophie. Alors évidemment, ça ne va pas. Si vous placez d'un point de vue critique, même la philosophie, même la science moderne l'accepte. Un au-delà du devenir. Alors, on ne sait plus c'est quoi. Les indices, le hasard. Ça, c'était pour le vivant. Mono. Et le ping-pong. Pour les physiciens. On ne sait plus. Oui. Le monde du devenir est enveloppé.
Un effort énorme et puis on est vite fatigué, même intellectuellement.
un autre ira plus loin. Cet autre qui était plus loin, c'est Thomas d'Aquin. Mais Thomas d'Aquin le fait dans la lumière de la foi. Et grâce à la lumière de la foi, il montre que la matière est co-principe, concret, et donc qu'elle n'est pas éternelle. Il faudra ensuite montrer que l'intelligence humaine peut, par elle-même, découvrir que la matière est nécessairement limitée. Alors, on va continuer.
Est toujours second, n'est jamais premier.
pas être éternel. Parce que ce qui est éternel est premier. Par définition. Parce qu'il est éternel. Ce qui est éternel ne peut pas dépendre. Ne peut pas être relatif. Ce qui est éternel est premier. Donc il est en acte. Donc il n'est pas nul. Il est immobile. Alors, vous voyez, ici, c'est une petite astuce. Ça, c'est une astuce grecque. Les Grecs sont très astucieux. Ils sont très habiles. C'est parce que c'est une des qualités. Faut pas l'oublier. Le sage est habile pour le grec. Il est habile même dans les discussions. Mais il est habile dans les discussions en vue de la vérité. Alors, ici, c'est une habileté. C'est une objection. C'est très, très joli comme objection, n'est-ce pas? C'est l'objection quantitative. Vous en ajoutez, vous en ajoutez, vous en ajoutez. Alors vous croyez que vous atteignez l'infini. C'est on noie le poisson. C'est ça, noyer le poisson. On en ajoute, on en ajoute, on en ajoute. Alors au bout d'un certain temps, le poisson disparaît. La petite goutte de sel que vous mettez dans l'eau, si vous avez un tonneau énorme, ça disparaît. Le sel s'affadit. Tant qu'il n'est plus sel. Et pourtant, il reste sel. C'est toujours là. C'est très, très fort, ça. Mais c'est très intéressant, parce que c'est ce que Hegel, lui, n'a pas vu. Parce qu'il pense que par la quantité, on retrouve la qualité. Il n'y a plus de distinction radicale entre quantité et qualité. C'est effrayant. Parce que vous n'avez plus le contact avec les sensibles propres. Les sensibles montrent que la qualité, c'est la qualité. Vous n'allez jamais faire croire à quelqu'un qui a du goût que la quantité propre, c'est la qualité. Six cents litres de vin. Heureusement qu'ils sont meilleurs que le premier vin. C'est dit avant, c'est dit exprès, pour qu'on voit que la quantité implique la qualité. Mais il y a les deux affirmations. Mais pour quelqu'un d'hégélien, il suffirait qu'il y ait 600 kilos. 600 litres, c'est suffisant. Les 600 litres impliquent la qualité. C'est le moment dialectique. Et c'est ça qui est très ici, très astucieux. Vous voyez ? Car un mouvement infini peut avoir lieu dans un temps fini. Non. D'un seul sujet, mais de plusieurs. D'un seul sujet, non, mais de plusieurs. Vous en ajoutez, vous en ajoutez, vous en ajoutez. Alors, vous arrivez à l'infini par le sujet, donc par la quantité, par l'aspect matériel. Et vous arriverez à dire, mais oui, donc vous pouvez très bien arriver à l'infini. C'est bien le cas ici. Chaque mu se meut en effet de son mouvement propre. Il n'y a rien d'impossible à ce que plusieurs choses soit mu simultanément. Mais s'il faut que le moteur premier, selon le lieu et le mouvement corporel, soit en contact ou en continuité avec le mu, comme l'expérience nous le montre partout, il faut que les choses mues et les choses qui meuvent soient en contact ou continuent les unes avec les autres. Entre ce qui meut et ce qui est mu, il y a un contact. Physique, le coup de chicno, là. Il y a un moment de contact. Après, ça roule tout seul. Il faut que les choses mues et les choses qui sont, qui meuvent, soient en contact ou continuent les unes avec les autres, de sorte que de toutes, il n'en formera qu'une. Voilà, voilà comment on rattrape par le contact la multitude qui voulait vers l'infini. Que celle-ci soit finie ou infinie, cela n'importe en rien pour le moment. De toute manière, en effet, le mouvement sera infini, puisque les choses sont en nombre infini du mouvement, que les mouvements peuvent être égaux ou plus grands. Oui, du moment que les choses, du moment que les mouvements peuvent être égaux ou plus grands, les uns que les autres, car nous prendrons comme réel ce qui est possible. On est dans l'hypothèse. On répond à une erreur. Donc, en répondant à une erreur, vous pouvez dire que là, nous faisons que le réel soit le possible. Ce serait pas juste au plan métaphysique. Mais par une réponse, on a le droit. Parce qu'on répond, on montre qu'il y a une contradiction dans l'objection. Si donc, la chose formée par alpha, bêta, gamma, delta mérite d'être appelée infinie en raison de l'accumulation, hein. Vous pouvez en accumuler indéfiniment, vous pouvez mettre tout l'alphabet et puis après l'alphabet vous recommencez en mettant une petite apostrophe en plus, et puis vous pouvez recommencer en mettant 2, vous pouvez recommencer en mettant 3, vous pouvez recommencer en mettant 4 et infini, n'est-ce pas? Vous arrivez comme ça à accumuler. c'est l'au-delà du physique. Ça, c'est l'imaginaire d'Aristote. Hein. Tandis que nos premiers moteurs, on ne sait pas du tout très bien ce que c'est. Tandis que ces premiers moteurs. Bon, alors, ce premier moteur, Aristote dit, je le prends comme cause efficiente et non pas comme cause finale. Alors que pour Aristote, le premier moteur est cause finale. Donc voyez bien, donc la mise entre parenthèses. Aristote utilise un raisonnement en mise entre parenthèses. Je mets entre parenthèses le point de vue de la cause finale pour le premier moteur. Parce que le premier moteur peut être aussi bien cause finale que cause efficiente. Pour Aristote, il est cause finale. Je peux très bien raisonner premier moteur cause efficiente. Si le premier moteur est cause efficiente, je tombe dans une sorte de panthéisme. Il n'y a que par le point de vue de la finalité, et c'est ça qui est intéressant, il n'y a que par le point de vue de la finalité que je peux remonter au premier. Je ne peux pas remonter au premier dans l'ordre des causes efficientes. Dans l'ordre des causes efficientes, on va à l'infini. Il n'y a pas de premier. Ça aussi, c'est très important au point de vue critique. C'est pour ça que toutes les voies d'accès à l'être premier se font par le point de vue de la causalité finale. Et toute la scolastique décadente, toute la scolastique thomiste décadente, depuis Occam, traduit les voies d'accès par la cause efficiente. Alors c'est pour ça que ce moment-là est très intéressant, vous voyez. Parce qu'on dira Aristote prend les voies de la cause efficiente, pas du tout. Alors j'espère que vous voyez pourquoi. Pourquoi il n'y a pas de premier dans l'ordre de la cause efficiente? Et toutes les apologétiques du début du siècle de l'abbé Moreux, ces apologétiques qui ont inondé la chrétienté, n'est-ce pas? Et les philosophes et les théologiens, toutes ces apologétiques étaient des apologétiques par la cause efficiente. Alors, par la cause efficiente, vous pouvez remonter à l'infini. C'est l'œuf et la poule. Vous pouvez remonter à l'infini. Qu'est-ce qu'il y a de premier, l'œuf ou la poule? Les deux se tiennent. Vous ne pouvez pas les séparer. S'il y a un œuf, il y a une poule. S'il y a une poule, il y a un œuf. Et ainsi de suite, vous remontez à l'infini. Tandis que la causalité efficiente, vous ne pouvez pas dire que la poule finalise l'œuf. Est-ce que l'œuf finalise la poule? Non. C'est très très curieux. Mais ça qui est intéressant, c'est de voir qu'Aristote la saisit tout de suite. Dans la causalité efficiente, vous ne pouvez pas remonter au premier. Toutes les apologétiques sur les preuves de l'existence de Dieu reposent sur la causalité efficiente. On remonte, on remonte, on remonte. Et il faut bien quelque chose qui soit. Mais oui, mais ça, c'est vous qui dites ça. Ben, je ne sais pas. Puisque je ne sais pas. Alors, on a l'infiniment. Pourquoi on ne peut pas découvrir un premier dans la cause efficiente? Parce que la cause efficiente demeure dans le mouvement, le contact. Les deux se tiennent. Tandis que la causalité finale, elle, est transcendante. Elle est au-dessus du mouvement. La fin meut sans être mue. Il n'y a que la fin qui meut sans être mue. Parce que c'est le bien qui finalise. Et le bien attire. Tandis que la cause efficiente, elle court après. Vous savez bien, c'est les deux manières de la vie apostolique. Il y a des gens qui courent après. Et il y a des gens qui finalisent. C'est très curieux. spiritualité des contacts, voyez. Ça court après. Vous pouvez courir indéfiniment. Parce que chaque fois que vous approchez, le lien file. Alors vous comprenez, le lien file. Ça se pourrait aller indéfiniment. Tandis que si vous attirez le lien par une carotte, c'est tout à fait différent. Il vient vers vous. C'est très très important ça, il faut le saisir ça. Si on ne saisit pas ça, on ne saisit rien à ce que nous cherchons ici. Et ça c'est capital, point de vue de l'intelligence, parce qu'on voit que notre monde ne sait plus ce que c'est que la finalité. Les thomistes ne savent plus ce que c'est que la finalité, depuis Occam. Ils ne savent plus. Alors on se rattrape du côté de la cause efficiente. Et alors, en prenant la cause efficiente, on croit qu'on pourra arriver, on n'y arrivera jamais. Parce que la cause efficiente, vous en ajoutez, vous en ajoutez, vous en ajoutez. Il faut toujours que le TGV aille plus vite. Il faut qu'il aille plus vite. Cause efficiente. La finalité, c'est quoi? C'est d'aller sûrement au lieu. Parce que si ça va plus vite, mais qu'il y a un accident au milieu, vous n'y arriverez pas. Vous voyez, la cause finale, c'est de passer du fat géré au plan moral. Il y a un abîme. Vous ne pouvez jamais passer du fat géré au point de vue moral. Le point de vue moral est commandé par la finalité. Le travail, il est la cause efficiente en lui-même. Mais un travail humain implique une finalité. Et donc il y a une mesure, la fin est au-dessus de l'efficience. Et l'efficience prend son sens par le travail. Alors c'est pour ça que c'est très important de comprendre cette petite distinction que fait Aristote ici. Il a l'air de rien, c'est ça qui est toujours, ce qui est terrible dans Aristote, c'est qu'il est, il est très intelligent. Alors parce qu'il est très intelligent, il n'a pas besoin d'en ajouter, il dit simplement ça. On ne fait pas attention. Le moteur premier, pris non comme cause finale, mais comme principe, tout par le mouvement, est avec le mu. Il colle au mu. Il est en contact avec le mu. J'entends par avec l'ego to amma. Donc le to amma. Je dis. C'est l'ego, je dis. Je dis. Le avec. Entre eux, il n'y a rien dans l'intervalle. Donc ça colle. En effet, cette propriété appartient généralement à tout ensemble de mu et de moteur. Tout ensemble de mu et de moteur sont en contact. Et en contact, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est immédiat. C'est le amma, ziboul. Mais, puisqu'il y a trois mouvements, local, qualitatif, quantitatif, il y a nécessairement aussi trois moteurs. Et quand vous êtes dans le mouvement, vous n'êtes jamais dans la simplicité. Jamais. Si vous êtes dans le mouvement, il y a trois mouvements. Alors c'est très ennuyeux pour le premier moteur. Mais là encore, c'est des petites phrases qui sont capitales. Il n'y a pas de simplicité dans le mouvement. Jamais. Quand vous êtes en recherche, si vous n'êtes pas simple, vous êtes en recherche. Il faut avoir trouvé pour être simple. Il faut avoir dépassé. Quand on est en recherche, on tâtonne. On réfléchit. Alors, il y a trois mouvements. Trois mouvements. Donc, un mouvement selon le lieu, un mouvement selon la qualité, un mouvement selon la quantité. On l'a vu précédemment, donc Aristote pour reprendre ça. C'est très très important, vous voyez ça, de comprendre que le mouvement est toujours dans la multiplicité. Tout le temps. Et il y en a trois. Le mouvement local, le mouvement de l'altération, le mouvement de la croissance, ou de la diminution. Ce qu'on peut croire, c'est diminuer. C'est dans l'ordre de la quantité.